Salut, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat. Cédric Simonin est là, et bien là, comme d'habitude. Ça fait plus de 3 ans que ça dure.
4.
Et ça continue encore et encore. Bah, plus de 3 ans, ça fait 4. Hein. Vous comptez bien, effectivement. C'est pas mal.
On s'est cherché la merde. Ah, non, pas tout de suite.
Non, mais je suis content parce qu'on reçoit des architectes. J'aime beaucoup les émissions d'habitude où on reçoit des architectes. Là, il y en a deux pour le prix d'un. Il s'agit de Maxime Khalili et Daniel Gasser de K et Plus Architecture Globale, un cabinet, une boîte qui a été créée en 2006. Plus de 50 collaborateurs, dont vous deux, vous dirigez cette boîte de main de maître. Et on va parler avec vous d'un prix que vous avez obtenu, le prix citoyen pour un projet d'architecture exemplaire, Cédric.
Oui, on aime bien mettre les architectes à l'honneur, surtout quand ils ont des projets qui sont vraiment symboliques, on va dire. Et j'ai vraiment souhaité qu'ils viennent en parler parce qu'il y a une double connotation. Déjà, le projet architectural en lui-même, plus le fait d'avoir gagné un prix, cocorico quand même, parce qu'on est quand même en Alsace. Ouais. Et puis, il y a une notion sociale que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il nous en parle. Donc, vous avez gagné ce prix qui est appelé Prix Projet Citoyen, délivré par l'UNSA. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qui est l'UNSA? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi dans un deuxième temps la démarche par rapport à ce projet?
Bien sûr, bonjour à tous. Alors, l'UNSA, donc, c'est l'Union Nationale des Syndicats des Architectes Français. Donc c'est un syndicat qui regroupe donc la profession des architectes autour d'événements, donc que ce soit des revues, des formations ou aussi des prix. Donc il y a le prix du projet citoyen, un prix qui existe depuis 20 ans, donc c'était la 20e édition l'année dernière. C'est le trophée des jeunes talents, donc là on est un peu trop vieux pour du coup concourir à ce trophée-là. Et le prix du projet citoyen, c'est quoi? C'est donc un prix qui distingue un projet exemplaire, mais avec issu d'une démarche. Donc c'est pas juste un prix d'architecture, comme il y en a beaucoup dans nos milieux. C'est vraiment une démarche concertée entre un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre. Donc nous, le maître d'ouvrage, c'est le client, et le maître d'objet citoyen, c'est celui qui va utiliser le bâtiment, qui va l'exploiter, qui va vivre dedans. Et vraiment, l'idée, c'est de présenter une démarche. Donc c'est un prix qui peut sélectionner un projet d'urbanisme, de paysage, d'aménagement, un équipement ou du logement. Voilà, donc dans les 20 dernières années, les prix étaient assez divers. Voilà, et donc le maître d'ouvrage, ça c'est un des partenaires importants dans cette histoire-là, c'est l'AEDE.
Alors, l'AEDE, donc on a compris que c'était très coopératif, cette démarche. Et puis, alors l'AEDE, vous pouvez nous en parler, c'est pour eux et avec eux, pouvez-vous nous dire deux mots?
Exactement, donc l'AEDE, c'est une association, loi de 1901, donc qui a été créée dans les années 1954, donc qui est basée à Hautefeuille, en Seine-et-Marne, dans le 77, et qui a pour vocation, donc cette longue histoire, de s'occuper de personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment du médico-social, donc ils ont une trentaine d'établissements, dans l'Est parisien et l'Est de la France, dans le Bas-Rhin, 1500 résidents qui sont donc accompagnés avec un millier de salariés. Et donc le public qui est pris en charge sont des personnes dans tout le panel de l'handicap, hein, donc mental, psychique ou polyhandicapé. Donc voilà, il y a tous les problématiques qui sont pris en charge. Hein.
Et là, en l'occurrence, je ne dis pas de bêtises, enfin, rectifier si je dis une bêtise, c'était plutôt focalisé sur la problématique liée à l'autisme, hein, c'est
voilà.
Ça hein. Alors, ma question, c'est pourquoi fallait-il une réponse adaptée justement à cette maladie qu'est l'autisme?
Alors effectivement, l'autisme, c'est un sujet qu'on connaît tous à travers ce qu'on entend, ou le film Rayman qu'on a tous regardé quand on était enfant, et même moi, je n'en connaissais pas grand-chose. Et effectivement, donc, sur le sujet qu'on a traité, effectivement, l'autisme, c'est en fait des personnes qui ont un trouble de la sensorialité, donc qui sont beaucoup plus sensibles aux stimuli de ce qui nous entoure. Une lumière aveuglante, un bruit, une couleur trop vive, un espace trop vaste peut mettre en difficulté une personne atteinte de ces troubles-là. Alors bien sûr, il y a des personnes avec des troubles qui peuvent être insérées dans la société, ou qui vont à l'école, ou qui vivent normalement, voilà, qui ont cet handicap, mais qui peuvent être dans la société. Et là, en l'occurrence, l'attendu dans ce territoire-là, c'était des personnes, effectivement, 40 personnes autistes qui sont des troubles très, très, très lourds et qui ne peuvent pas être autonomes dans la cité.
C'est clair. Alors vous, par rapport à ce projet, quelle a été votre démarche? Et puis, est-ce que vous êtes aussi fait aider, puisqu'on a parlé de projet coopératif, de sachants, d'experts, pour vous aider dans cette démarche?
Voilà, donc ce travail qu'on a fait conjointement avec l'AEDE, donc ce porteur de projet. Et bah, eux aussi, ils connaissaient forcément bien le monde de l'handicap, mais peut-être pas encore à 100% l'autisme. Et donc, on a monté ce projet-là. On est allé visiter des centres autistiques en France, à Niort, par exemple, dirigé par le professeur Fiard. On a intégré dans l'esquisse une consultante, donc une docteure en psychologie qui s'appelait Claire, enfin, qui s'appelle Claire Degène, et qui a vraiment permis, avec des échanges entre moi, l'architecte, l'utilisateur et elle, spécialisée dans ce domaine, de comprendre exactement comment appréhender et comment créer le bâtiment le plus adapté autour de cette problématique-là.
Ok. Avant de rentrer après sur la démarche en elle-même et puis quelques exemples, est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapide sur le projet ? Où est-ce qu'il se situe ? Le nombre de logements ?
Voilà. Donc c'est un bâtiment qui est situé en région parisienne en 77, donc à Coulommiers. Le terrain a été choisi aussi dans le cadre de ce montage de projet. Hein, donc j'étais en amont même sur le choix du terrain et sur la programmation. Donc c'est un bâtiment qui a une quarantaine de lits, donc une quarantaine de chambres, autour de 7 unités, de 6 personnes. Donc c'est vraiment l'esprit de créer pas un hôpital ou un établissement avec des grands couloirs et des chambres au bout du couloir. C'est vraiment créer des familles, créer des groupes de 6 personnes dans des maisons, qu'on appelle une unité, mais le plan ressemble plus à un plan de maison avec un salon, une petite cuisine, un salon télé, un espace zen et un espace qui regroupe les chambres. Et ça, donc, regroupé dans un bâtiment, relié par des circulations et autour d'un pôle sensoriel, un pôle aussi médical au centre du processus, qui permet aux personnes aussi d'aller en balnéothérapie, aller dans un salon beauté, une salle de motricité, un jardin sensoriel. Donc il y a toute une programmation qui permet aussi à ces personnes d'avoir un parcours dans la journée qui leur va. Et bien sûr, après, ça reste un équipement avec une grosse cuisine de production, avec
des choses plus classiques.
Important aussi, avec la DE, on a aussi décidé très vite de créer aussi un studio pour accueillir les familles. Souvent, ces familles viennent du département, de loin, rencontrer leurs... Je dis enfants, c'est des adultes, mais leurs familles qui sont dans cet établissement, ils ont l'occasion de pouvoir rester aussi un jour sur place ou deux jours sur place. Donc c'est aussi une approche assez humaine de la démarche avec les familles.
En quelques mots, quelles ont été les problématiques auxquelles vous avez été confrontés et que vous avez dû résoudre ?
Alors, après la problématique d'un ERP, forcément un complexe type J, etc., et tous les thèmes qu'on connaît dans ce genre de bâtiment-là, c'était vraiment créer un bâtiment sur mesure autour de cette problématique-là. Donc, par exemple, on peut parler donc de tous ces thèmes autour de la sensorialité que j'exprimais. Donc, par exemple, renforcer l'isolation phonique du bâtiment, filtrer les fenêtres, les vues vers l'extérieur par des vitrages dépolis ou par des stores pour justement que la personne ne soit pas agressée par l'ombre de la lumière du soleil qui passe. Travailler la thématique de la couleur importante aussi, donc plutôt très neutre, très apaisé, sans reflet, pas de couleurs vives, pas de motifs sur les revêtements de sol, par exemple, comme on trouve souvent. Voilà, donc tous ces thèmes-là, on les a intégrés dans le bâtiment.
Mais pour que je comprenne bien, ça veut dire que quelqu'un qui est atteint d'autisme, si tout d'un coup, il a une lumière relativement vive qui traverse la pièce, c'est quelque chose qui peut le déstabiliser.
Voilà.
Même chose pour le son. Parce que concrètement, là, vous voyez, les auditeurs, ils disent, OK, ils ont fait un projet, mais comment ça se transforme, cette problématique liée à l'autisme, et comment concrètement on le retrouve dans le bâtiment ? C'est ça, vraiment ?
Oui, c'est ça. Donc, c'est des personnes qui peuvent faire une crise de stress dans leurs émotions sur des problématiques comme ça.
D'accord.
Qui, nous passerait inaperçu. Moi, un bruit, une lumière, nous, ça nous fait rien. Une personne atteinte de troubles autistiques peut vraiment entrer en stress, mais violent.
En fait, vous avez travaillé sur le bien-être de ceux qui occupent le bâtiment.
Mais aussi créer un cocon sécuritaire pour ces personnes-là, parce que ce stress-là, c'est pas juste ça m'embête, ça peut être très violent, on démolit les murs, on arrache les portes, à ce niveau-là.
Donc pour minimiser les risques, parce qu'ils sont peut-être pas à zéro non plus, vous avez travaillé sur la couleur, sur tous les reflets, vous parliez des reflets.
Puisque c'est leur lieu de vie, c'est pas un lieu où ils sont hospitalisés,
c'est
pour une grande partie de leur vie, puisque voilà. Et donc pour que ce soit le plus agréable et qu'ils puissent le plus
J'ai peut-être pas suivi depuis le début, peut-être quelque chose qui m'a échappé. Il est construit, ce bâtiment ?
Il est construit, effectivement.
Ils sont déjà dedans ?
Il y a 2 ans, oui, tout à fait.
Ça fait partie de vos questions, Cédric, sur comment ça se passe aujourd'hui, donc ? Oui.
Oui. Non, mais pas tout de suite.
Ah, mais d'accord, pardon, je m'emballe.
Mais on peut en parler. Non, parce que je voulais.
Et Maxime n'a encore rien dit.
Je voulais aussi évoquer le sujet de l'espace qui était réservé pour ces gens atteints d'autisme, pour qu'ils puissent se recentrer sur eux-mêmes.
Oui, et dans tous ces exemples, on avait, en visitant un centre autistique dans un bâtiment, disons, lambda, on avait remarqué qu'effectivement, ils avaient posé par terre dans les espaces des tentes, type les tentes qui s'ouvrent tout seules, comme on trouve dans les commerces. Où la personne pouvait se cacher dans la tente, fermer la tirette pour se recentrer sur elle-même, pour quitter le groupe, pour ce qu'on appelle un moment de retrait. Et je trouvais ça pas forcément intéressant de poser des tentes partout. Donc en fait, directement dans la conception du bâtiment, on a intégré dans les unités on appelait ça les cabanes, hein, donc c'est des petits espaces qui partent derrière les cloisons, derrière les meubles, où la personne peut aller à quatre pattes, prendre du retrait, s'isoler, bien sûr avec tous les problèmes de sécurité qu'on connaît dans les bâtiments, donc on a capitonné les parois pour qu'elles ne fassent pas mal, etc.
Voilà. Ça, c'est donc ça se passe bien.
J'étais plusieurs fois sur place avec forcément des résidents avec une problématique très lourde, hein, qui peuvent même être inquiétantes quand on n'a pas l'habitude, mais il y a un très très bon retour.
Alors, effectivement, là, par rapport à ce concours, j'aimerais y revenir. Peut-être, Maxime, si vous voulez dire un petit mot. Quels sont les critères, finalement, qui ont fait la différence et qui vous ont permis, justement, d'être lauréat?
C'est surtout une démarche que nous avons dans l'atelier depuis très longtemps, qui est le fait de mettre en avant l'usager. C'est-à-dire, pour nous, nos clients, c'est d'abord l'usager par rapport à un promoteur. Nous, on ne regarde pas le promoteur comme notre premier client, mais on regarde les gens qui vont habiter dans le logement.
Je sens qu'on va se fâcher. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se fâcher.
Mais c'est une démarche commune. Ça veut dire que c'est aussi s'entendre avec un maître d'ouvrage sur ce qu'est son client, le comprendre mieux. Là, en plus, avec les autistes, c'est ce côté où ils ont des sens x10. Donc, il fallait encore aller plus loin sur cette idée de respect de la personne pour qui on construit. Et donc d'aller encore plus loin dans cette démarche. Et ça fait partie de notre ADN, nous, à l'agence, dans l'atelier. C'est-à-dire, c'est le respect de la personne pour qui on construit, et jusqu'au bout, et son bien-être jusqu'au bout. Et en plus de ça, on a cette qualité dans l'agence d'avoir des compétences diverses, du domaine de la conception jusqu'à la réalisation. Aujourd'hui, on a 13 conducteurs travaux, 6 personnes à l'économie, un ingénieur qui travaille sur la thermique. Donc, maîtriser le bâtiment dès la conception jusqu'à la réalisation, ça faisait aussi partie des critères du choix du maître d'ouvrage par rapport à nous. Ça fait des années qu'on le suit, en plus, sur des problématiques de réhabilitation, de sites de grande taille qu'ils ont, ce type d'organisme. Et la qualité architecturale passe par tout ça.
Et je devine que ce n'est pas un bâtiment que l'on trouve partout. En France, c'est peut-être même une première, non?
Alors, il y a d'autres établissements, effectivement, sur la prise en charge d'autisme. C'est vrai qu'en France, on est un peu en retard, a priori. Ouais. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai cru comprendre que l'autisme n'est pas un handicap qui est lourdement... suivi.
Et en cas d'élection des candidats, on n'en parlera plus jamais.
Mais c'est vrai que ce modèle de bâtiment, je l'espère...
Il faut dire que dans le domaine de la psychiatrie, effectivement, les hôpitaux psychiatriques mélangent énormément de cas différents. Les autistes ne sont pas du tout comme les bipolaires, comme d'autres handicaps psychiatriques. Et à ce niveau-là, oui, on commence à différencier vraiment et à spécifier. L'AEDE est reconnue aussi pour ça.
Voyez-vous, vous ne saviez pas où atterrir pour vos vieux jours, on a pensé à vous.
J'y pense. En tout cas, combien sont-ils dans ce bâtiment?
Alors, il y a 42 résidents et 80 personnes salariées qui travaillent avec eux.
D'accord.
Jour et nuit, puisque ça tourne, forcément, mais c'est 80 personnes.
Ok. Et par rapport à ce qui existe comme modèle, alors j'ai bien compris que ce n'était pas une première, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que votre façon de travailler, ce que vous avez construit, fait la différence? En gros, est-ce que ce prix est mérité? Oui, bien sûr, non, mais je plaisante. Qu'est-ce qui a changé vraiment par rapport à ce qui existait, pour finir et pour conclure?
Alors, le prix, c'est une chose, bon, c'est vraiment une démarche entre archi, avec l'UNSA, etc. Donc, on l'a eu, ça a été salué pour ces critères-là, effectivement, aussi de qualité de la démarche et de l'architecture. Après, nous, vis-à-vis de la thématique de l'autisme, oui, j'espère, avec ce client-là, avec les deux ou d'autres associations, pouvoir encore... Déjà, toute l'expérience qu'on a emmagasinée sur ce premier projet, pouvoir le remettre en action sur un autre.
On a déjà deux autres projets en cours, d'ailleurs.
D'ailleurs, oui.
On a démarré le chantier, donc... effectivement, ça fait boule de neige.
Et c'est encore, il y a 15 000 questions, hein, c'est encore une base de travail pour un autre projet, pour d'autres handicaps?
On travaille sur d'autres bâtiments pour accueillir des polyhandicapés, donc qui ont des thèmes forcément importants aussi, mais c'est vraiment l'autisme, c'est le plus qui va le plus loin dans la sensorialité. C'est vraiment...
Et alors, encore une question, j'arrête plus, mais c'est vrai que normalement, le handicap devait être au cœur du mandat présidentiel. Bon, on peut en discuter longtemps, je ne sais pas si ça l'a été réellement, a priori pas trop quand même, mais est-ce que l'État vous aide justement sur ce genre de projet ?
Alors, l'association, la UDE, c'est une association loi 1901, donc avec des fonds qui avec des fonds publics. Donc, cet établissement-là est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc, cette volonté aussi de ce territoire-là, Coulommiers, c'est l'ARS qui a dit qu'il faut créer 42 lits pour des autistes. Donc c'est l'État qui finance quand même.
Ok, c'était important de le préciser.
Voilà, mais est-ce que c'est suffisant ou
dans tout le cas, ça, c'est une autre question.
Je ne saurais pas forcément le dire.
Merci beaucoup. Merci Cédric.
Merci à vous.
On retrouve l'émission et toutes les autres sur Facebook Igloo On Air, en podcast, toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, bien sûr, sur topmusic.fr, évidemment. Merci messieurs, à très bientôt.